Bonjour et bienvenue dans Du poil sous les bras. Alors on va faire un petit jeu pour commencer l'émission aujourd'hui, j'adore les jeux. Je vais vous poser des questions et vous allez essayer de répondre dans votre tête. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui produit chaque année environ 33 000 personnes handicapées en France ? Oui, je sais, c'est pas évident comme question pour commencer l'émission. Alors je répète la question. Qu'est-ce qui produit chaque année environ 33 000 handicapés en France ? Eh bien, c'est les accidents du travail, bien sûr. Et oui, quand ils ne tuent pas, ils laissent de lourdes séquelles. La France est très bien classée dans la production sociale de handicap. Et parfois, les travailleurs meurent carrément. Et d'ailleurs, accrochez-vous, il y a environ 3 morts par jour à cause du travail en France. Les chiffres de 2022, c'est 2 morts par jour si on ne compte que les salariés du privé. Mais il faut ajouter les professions libérales, le service public, les auto-entrepreneurs, les non-déclarés, etc., etc. Et au-delà de tout ça, les personnes atteintes de maladies professionnelles qui vont mourir peut-être, mais en décalé, souvent quand elles sont à la retraite, et souvent donc non comptabilisées dans les morts du travail. Allez, une deuxième question plus facile. Qu'est-ce qui a tué 100 000 personnes en France dans le cadre du travail ? L'amiante, bien sûr, bon, c'était facile. Enfin, c'est pas que l'amiante, hein. Ce sont aussi et beaucoup des entreprises du coup, des patrons, des décideurs, qui, alors même que les risques étaient connus, ont parfois sciemment laissé des personnes continuer à être exposées à l'amiante. Alors évidemment, la troisième question coule de source. Est-ce que le cas de l'amiante a changé la donne en France ? Eh bien non, les accidents du travail stagnent depuis 20 ans, rien ne s'améliore, et du côté des maladies professionnelles, idem, hein, rien ne change, ou presque. Alors il faut bien séparer les accidents de travail, qui sont des accidents, ça arrive, même si parfois, c'est évident que ça va arriver et qu'on aurait pu mettre en place des choses pour les éviter, hein, bien comprendre que les accidents du travail, ce sont des accidents dus au travail, voilà, il n'y a pas de hasard. Donc il y a d'un côté les accidents dus au travail, et de l'autre, les maladies professionnelles, qui ne sont souvent pas du tout liées à un accident. Parce que l'exposition des travailleurs à des produits toxiques est souvent liée au cadre normal de l'activité. Voilà, on meurt par le travail, mais non plus au travail. On meurt après, hein, avec les maladies professionnelles, c'est souvent un peu plus tard. Vous voyez la nuance, voilà. Il faut bien saisir, hein, la différence entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Allez, encore une petite question pour vous mettre dans le bain de cette émission. Combien de cancers, chaque année en France, sont d'origine professionnelle ? Ah, vous l'aviez celui-là, non ? Allez, au bas mot, 80 000 cancers sont dus chaque année en France, au travail, au fait d'être exposé à des produits toxiques dans le cadre de son travail. Le cancer est la première cause de mortalité par le travail. Voilà, les chiffres que je viens de vous donner sont un peu flippants. Heureusement, pour en parler, j'ai rencontré à Paris, quartier Belleville, une personne passionnante qui a réussi à me faire sourire alors même qu'on a parlé cancer professionnel pendant une heure. Les gens comme elle sont précieux.
Alors les gens comme moi, ce sont des gens qui doutent, comme dirait Anne Sylvestre, ce sont des gens curieux, des gens qui posent plein de questions, qui embêtent les gens avec toutes leurs questions, c'est des gens qui aiment bien carburer au thé Gourus ou Earl Grey, et c'est des gens qui se prennent un peu trop la tête et des fois ils aimeraient bien se reposer le cerveau. Après, c'est les gens comme moi, c'est des gens qui rigolent souvent bêtement, parce que... voilà quoi. Les gens comme moi, c'est des gens qui ont du mal à parler d'eux. Voilà.
Ah, peut-être qu'elle a du mal à parler d'elle, mais elle a très bien su faire parler des travailleurs, des familles de travailleurs, plein de personnes rencontrées dans le cadre d'une enquête sur les cancers professionnels.
Alors bonjour, je m'appelle Anne Marchand, je suis sociologue et historienne à l'Université Sorbonne Paris Nord, qui se situe à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Donc je m'intéresse beaucoup aux questions de santé au travail, plus particulièrement les cancers professionnels, mais j'ai élargi un petit peu mes travaux aux questions de santé publique, de santé environnementale. J'aime bien interroger un petit peu les frontières qui existent historiquement construite, juridiquement construite, entre santé publique, santé au travail, santé environnementale, pourquoi elles sont en tension, pourquoi il y en a qui éliminent les autres, pourquoi la santé au travail, c'est finalement quelque chose qui est assez relégué par rapport à la santé publique, pourquoi c'est pas le ministère de la Santé qui s'en occupe, mais le ministère du Travail, pourquoi c'est souvent géré de façon paritaire entre les représentants de syndicats de salariés et les représentants de syndicats d'employeurs, et pourquoi on autorise finalement des choses au travail pour les salariés, les travailleurs, les travailleuses, qu'on n'autoriserait pas en dehors du travail.
Anne Marchand est sociologue donc et historienne, membre du groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, le GISCOP de Seine-Saint-Denis dans le 9-3. Et elle est aussi l'autrice du livre « Mourir de son travail aujourd'hui, enquête sur les cancers professionnels », un livre paru aux éditions de l'Atelier en 2022. Alors le titre du bouquin fait pas rêver, je vous l'accorde, hein, mais c'est hyper intéressant. D'abord parce qu'il s'agit de la restitution d'un travail très sérieux et très complet, et ensuite parce qu'Anne Marchand présente très clairement et factuellement un sujet assez complexe. C'est un livre à mettre entre les mains des travailleurs, des salariés, des médecins, super important, il y a tout un passage là-dessus. Et pour celles et ceux qui n'aiment pas lire, eh bien vous avez de la chance. Anne est l'invitée du jour dans Du Poil sous les bras. Ah, le monde est quand même bien fait, hein. Allez, vous allez pouvoir l'écouter dans un instant.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Les cancers professionnels, c'est la première cause de décès par le travail en Europe. Et pourtant, la suppression des produits toxiques n'est pas à l'ordre du jour gouvernemental. Les travailleurs n'ont souvent pas connaissance qu'ils travaillent au contact de produits toxiques. J'en profite pour préciser que j'utilise beaucoup le masculin dans cette émission, hein, travailleurs, ouvriers, car ce sont principalement des hommes qui ont été concernés par le passé et dans l'enquête, même si on y reviendra, les femmes ont elles aussi été très concernées par des cancers professionnels et le sont de plus en plus. Alors on va parler travail ou santé aujourd'hui à votre avis ? Et oui, moi je ne m'étais pas fait la remarque hein, que c'est le ministère du Travail qui gère la santé, mais au travail.
Non, mais s'intéresser au travail d'abord, s'intéresser au travail, c'est s'intéresser à quelque chose qui a une place extrêmement importante dans nos vies, hein. C'est ce qui nous définit socialement aussi, c'est ce qui nous permet de nous épanouir souvent. Mais le travail, il tue aussi, on le sait, parce qu'il y a un nombre d'accidents du travail mortels. On en parle assez peu encore. On en parle un peu plus maintenant, surtout depuis le travail un peu de recension systématique de Mathieu Lépine, surtout depuis qu'une association de familles de victimes s'est construite. Mais on garde toujours... reste davantage invisible la question des morts par le travail, qui sont des morts à petit feu, et des morts notamment liées aux produits chimiques, aux toxiques, à ce qu'on appelait de façon très claire fin 19e, 20e, les poisons industriels, et qui empoisonnent à petit feu les gens qui sont à leur contact au travail. Et donc s'intéresser au cancer professionnel, c'est s'intéresser aux modalités de reconnaissance de la part du travail dans l'épidémie de cancer. C'est s'intéresser aux modalités par lesquelles un cancer peut être reconnu professionnel. Et c'est surtout s'intéresser à tout ce qui fait obstacle, en fait, à cette reconnaissance. Et l'absence de reconnaissance crée de l'invisibilité des cancers professionnels. C'est-à-dire que pour le plus grand nombre, un cancer n'est pas relié au travail. Et donc tant qu'on pense qu'il n'est pas relié au travail, tant qu'on ne sait pas qu'il peut être relié au travail, bah, la prévention de ces choses-là ne peut pas avancer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire on va éliminer à la source les cancérogènes au travail, de la même façon qu'on nous dit que les cancers sont évitables à 40% si on ne fume plus, on ne boit plus, on bouge plus, si on mange mieux. On pourrait considérer que les cancers du travail sont eux aussi évitables, à condition qu'on se pose la question des toxiques au travail. Et c'est d'autant plus intéressant de se la poser que souvent ces toxiques du travail se retrouvent ensuite dans l'environnement et contaminent les riverains, contaminent les femmes, les enfants, les personnes âgées, les sols, l'eau, les airs, etc.
Et oui, s'intéresser à ce qui tue les travailleurs, c'est forcément s'intéresser à ce qui tue bien au-delà. Non seulement le travail vous intoxique, mais il peut aussi rendre malade votre femme ou votre enfant si vous rentrez à la maison avec du produit toxique sur vous. Et puis quand une entreprise utilise des produits toxiques, à un moment ou à un autre, elle s'en débarrasse. Donc je laisse votre imagination lister toutes les possibilités de dommages collatéraux. Alors puisque le travail est aussi important, Pourquoi y a-t-il aussi peu de visibilité sur les maladies professionnelles? Comment expliquer le décalage entre les connaissances que l'on a de ce qui tue et la situation de laisser faire, voire de laisser mourir?
Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'une part, on voit bien, selon les mouvements sociaux, selon les moments, vient sur le devant de la scène, ça a été à un moment donné les victimes de l'amiante, une mobilisation sociale des victimes de l'amiante, ça a été les suicides à France Télécom, c'est les risques psychosociaux, aujourd'hui c'est toute la question du travail pressé, la question du sens du travail, la question des liens entre travail et santé, elle est posée quand même depuis plusieurs années, de plus en plus. Elle l'a été à d'autres moments dans l'histoire. Hein. Autour de mai 68, elle l'a été posée très fort. Il y a eu de forts mouvements pour l'amélioration des conditions de travail, avec l'idée, avec le slogan « Ne plus perdre sa vie, à la gagner ». Donc ça a conduit à des nouvelles lois pour l'amélioration des conditions de travail, des lois de prévention, etc., etc. Et puis régulièrement, il y a des moments historiques qui reviennent, où on voit bien là, depuis quelques années, comment on détricote le code du travail, comment on supprime des instances qui étaient des instances qui étaient extrêmement utiles aux salariés pour justement interroger les conditions de travail. Là, je parle des comités d'hygiène, de sécurité des conditions de travail. Comment on intensifie le travail, comment on divise les collectifs de travail, comment finalement tout ce qui s'était construit lentement au fil du 19e et surtout du 20e, qu'on appelle la société salariale, avec tous les droits et la protection sociale qui vont avec, sont au fur et à mesure détricotés. Donc ça, c'est déjà une réalité du travail. Et au milieu de tout ça, ben, la question des cancers, elle a du mal à s'imposer. Parce que le cancer, il survient des années après avoir été exposé. Donc c'est pas un risque immédiat, c'est une maladie à effet différé. Et donc, enfin, quand on rencontre des gens qui sont exposés à des poisons industriels dans leur travail, ils sont exposés en général à tout un cumul d'autres choses. Et en général, ils vont s'emparer ou ils vont percevoir ce qui est le plus grave, ce qui les touche en premier, ce dont ils voient l'effet tout de suite. Que ça soit les doigts coupés avec les presses, que ça soit les allergies, que ça soit les problèmes de bruit, les problèmes de vue, les problèmes justement de dépression, tout ça ils le voient. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est comment le produit avec lequel ils sont en contact dans leur activité habituelle de travail va peu à peu transformer à bas bruit dans leur corps leurs cellules et arriver à un cancer des années plus tard. C'est aussi pour ça que c'est invisible, parce que entre un cancer du travail et un cancer qui ne l'est pas, on n'arrive pas à faire la différence médicalement et scientifiquement. On ne peut pas ouvrir un cancer du poumon et se dire qu'est-ce que c'est là? Est-ce que c'est de l'amiante? Est-ce que c'est des achapés? Est-ce que c'est du tabac? Est-ce que c'est je ne sais quelle autre substance qui serait extérieure au travail? On ne peut pas faire ça, parce qu'un cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle. Et médicalement, scientifiquement, on ne peut pas isoler un facteur sur un autre. Au contraire, plus que s'additionner, ils sont souvent en synergie. Donc on ne peut pas du tout dire ce cancer, c'est un cancer du travail, exclusivement du travail. Le cancer, pour reprendre ce que dit celle qui m'a presque tout appris, qui est Anita Bomoni, c'est le résultat d'une histoire, et donc une histoire qui s'inscrit dans ses caractéristiques très singulière, biologique, physiologique, son histoire individuelle, si tant est qu'on peut avoir des histoires individuelles, et puis des histoires collectives, le cadre dans lequel on se construit, le travail, les lois, etc., etc. Et donc c'est aussi pour ça que c'est difficile de parler des cancers du travail, parce que l'image majoritaire qui se diffuse dans l'espace public et toutes les campagnes de prévention qui sont faites contre le cancer, c'est des campagnes qui sont uniquement orientées vers des comportements qu'on dit individuels, le tabac, l'alcool, l'alimentation, le sport. Et lorsque le cancer survient, ben souvent, et ça se vérifie auprès de plein de personnes et dans plein de travaux, ben en premier on se dit qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? On se dit pas dans quel contexte j'ai évolué.
Et non, on se dit pas ça, parce que tout est fait pour culpabiliser l'individu et dédouaner par la même occasion un système qui génère des profits. Et ça, les profits, hein, ça vaut tous les morts du monde, non? Et puis, c'est d'autant plus facile de faire culpabiliser les salariés que ces derniers ont en général confiance dans leur entreprise, dans leurs dirigeants. Ils ne peuvent pas imaginer qu'une entreprise les exposerait à la mort à petit feu. Ils ne savent même pas qu'ils bossent avec ou au contact de produits toxiques.
Si les personnes n'imaginent pas que leur cancer vient de leur travail, c'est aussi parce que le plus souvent, elles ignorent la nature cancérogène des substances avec lesquelles elles ont été en contact. Alors, il faut savoir que ces substances, elles peuvent être inodores, invisibles. Hein. L'exemple le plus emblématique, c'est les rayonnements ionisants. C'est-à-dire sans un outil, sans un instrument, sans quelque chose d'extérieur qui permet de compter, de doser, on peut ne pas savoir qu'on est exposé au rayonnement ionisant, on ressent rien, sauf à très forte dose. Hein. Et puis ces produits, ça peut aussi être des produits qui sont très facilitants dans le travail, donc on peut pas imaginer qu'ils soient dangereux. Et d'ailleurs, beaucoup des travailleurs que j'ai accompagnés dans leur accès aux droits me disaient « mais en fait, si c'était vraiment toxique, ça serait interdit. C'est-à-dire que pour tout le monde, ce qui est autorisé dans l'entreprise, ça veut dire que c'est pas nocif, parce qu'une entreprise, c'est maîtrisé, tout est sous contrôle, et même quand on en veut à son patron, même quand on trouve que c'est un exploiteur, même quand on est à couteau tiré avec lui, on peut pas imaginer qu'en fait, au sein de l'entreprise, dans son activité habituelle de travail, en toute légalité, on soit exposé à des cancérogènes, qui sont donc des dangers et qui peuvent faire courir le risque de contracter un cancer. On se dit que tout ça a dû quand même être pensé. Il y a des lois, il y a l'État, il y a l'inspection du travail, il y a le ministère du travail. Donc si on utilise ces produits-là, s'ils sont autorisés, c'est que tout est sous contrôle. Et c'est très difficile, en fait, d'admettre, après coup, hein, que tout n'est pas sous contrôle. Et même après, on a prévu une loi, qui est la loi de réparation des maladies professionnelles, pour justement indemniser les éventuelles maladies qui surviendraient de ces contaminations.
La maladie professionnelle, quand elle survient, notamment dans le cas du cancer, elle survient tardivement. Parfois, le salarié a bossé pour 3, 4, 10, 20 entreprises qui toutes l'ont mise en danger. Évidemment, vous imaginez bien que les salariés les plus précaires ou les intérimaires, par exemple, sont non seulement les plus exposés, mais aussi ceux pour lesquels il va être difficile de retracer le parcours d'intoxication. Dans son livre, Anne Marchand raconte le choc pour des personnes atteintes de cancer de découvrir, grâce à l'aide du Giscope de Seine-Saint-Denis, que l'entreprise qui les employait les a exposés à des produits cancérogènes, sans qu'ils le sachent, sans avoir mis en place des mesures de protection. Pire, vous avez parfois des entreprises qui mettent en place des mesures, mais des mesures insuffisantes, juste suffisantes à ce que le salarié se croit protégé.
Oui, si les personnes ne soupçonnent pas non plus qu'ils ont été contaminés au travail, c'est parce qu'ils ont pu se croire protégés, aussi parce qu'il y a des dispositifs dans l'entreprise qui sont par exemple une surveillance médicale renforcée ou des valeurs limites d'exposition professionnelle. Et l'un et l'autre peuvent donner l'impression aux salariés d'avoir été protégés. Alors la surveillance médicale, c'est parce que ce sentiment qu'ils sont suivis de près peuvent leur donner l'impression d'être protégés. Et là, on est face à une difficulté avec ce mot prévention. Hein. Prévention primaire, c'est supprimer le risque. Et puis prévention secondaire, c'est le contrôle médical. Prévention tertiaire, c'est encore autre chose. Et donc, je me souviens de la veuve d'un salarié me disant « Mon mari travaillait dans le graphite, il crachait noir, il se mouchait noir, il salissait les cahiers de devoirs de nos filles. » Et ça m'inquiétait, je lui disais « Arrête ce boulot », et il me disait « T'inquiète pas, tout est sous contrôle, j'ai une surveillance médicale ». Et elle me disait lui, il croyait qu'on le protégeait et on l'endormait. Donc ça, c'est quand même très fort comme perception de la part de l'épouse. Et puis les valeurs limites d'exposition professionnelle, c'est aussi par méconnaissance, donc il existe des valeurs limites d'exposition professionnelle, et par méconnaissance, les salariés, mais aussi les syndicalistes, peuvent penser qu'elles ont été établies pour définir un seuil en dessous duquel il n'y aurait aucun risque. Or, elles ont été établies juste sous la forme d'un compromis social en disant on va s'arrêter à ce seuil-là, mais il n'y a pas de seuil en dessous duquel on ne court aucun risque de contracter le cancer. La plupart des cancérogènes sont sans effet seuil. On n'est pas dans la question c'est la dose qui fait le poison. Il peut suffire de peu pour pouvoir développer un cancer plus tard. Et la preuve en est de ces valeurs limites qui sont des compromis sociaux, c'est que elles sont très différentes d'un pays à l'autre, en fait, en fonction justement des résultats des négociations sociales. Et jusqu'à preuve du contraire, là, biologiquement, physiologiquement, un travailleur allemand et un français sont à peu près pareils. Or, les valeurs limites sont pas les mêmes. L'autre façon de se croire protégé, c'est justement d'avoir pu bénéficier d'équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI. Or, il y a plusieurs études qui montrent qu'ils ne sont pas toujours fiables. Alors, beaucoup d'études l'ont montré avec les pesticides. Ont montré que, justement, les pesticides pouvaient se mettre entre la combinaison et la peau et qu'il n'y avait rien de pire que de se croire protégé quand on ne l'était pas véritablement. Et puis, d'autres études qui montrent que les masques... pour limiter l'exposition à l'amiante, qu'utilisent notamment les désamianteurs, puisqu'il y a maintenant tout un métier hein, qui est le désamiantage. Après avoir mis de l'amiante partout, il faut bien des gens qui l'enlèvent, que ces masques-là n'étaient pas assez efficaces pour toutes les fibres fines d'amiante. À tel point que le ministère du Travail avait pu communiquer à ses inspecteurs du travail de ne plus être présents sur les chantiers de désamiantage parce qu'ils ne pouvaient pas leur garantir une parfaite sécurité. Donc les EPI, les équipements de protection individuelle, dans les principes de prévention, dans le code du travail, c'est vraiment le bas de la hiérarchie de la prévention. C'est quand rien ne peut être fait par ailleurs. C'est-à-dire quand on a essayé de substituer les produits dangereux par des produits moins dangereux ou pas dangereux, et puis ça passe par l'organisation du travail, ça passe par des équipements de protection collective comme la ventilation, l'aération, etc. Et les EPI, c'est vraiment normalement la dernière chose à faire, en fait, quand on a déjà tout fait. Or, on se rend compte que souvent, c'est le plus facile. Et ça concourt à cette même tendance à responsabiliser, voire à culpabiliser les personnes, c'est-à-dire à de leur dire, si c'est dangereux, c'est de ta responsabilité de t'équiper. Donc je mets à ta disposition, quand ça arrive, parce que tous les employeurs ne mettent pas à disposition, mais moi, employeur, je mets à tes dispositions ces équipements de protection individuelle, et du coup, c'est à toi de les mettre et tu seras protégé. Or, on voit bien que c'est pas aussi facile que ça.
Il y a un exemple dans le livre d'Anne Marchand où elle raconte l'inefficacité d'un équipement de protection individuelle, pas adapté du tout, mais du coup, le salarié se croyait protégé des radiations ou de je ne sais plus quel autre produit. Alors c'est très intéressant ce que raconte Anne Marchand aussi sur les seuils. Il n'y a pas de seuil en dessous duquel un cancérogène ne le serait pas, mais il y a des compromis sociaux. Et puis, ce système-là de prévention qui dysfonctionne pleinement, la prévention primaire, c'est donc de supprimer le risque. Et ça, en gros, ça n'existe quasiment pas. Pourtant, c'est là que tout se joue. Parce qu'après, la prévention secondaire, c'est de contrôler, faire des contrôles médicaux, par exemple. Ça permet de savoir que vous allez être malade ou que vous l'êtes. Et puis, la prévention tertiaire, c'est quand on vous soigne. Mais c'est trop tard. Bon, avançons. Je vous ai dit qu'Anne faisait partie du GISCOP 93. Alors, qu'est-ce que c'est, au juste ? Une équipe d'enquêteurs surmotivés qui ont acquis une expertise très pointue tout au long d'un travail remarquable qui est justement mis en lumière dans le livre d'Anne Marchand.
Ce livre, c'est le résultat d'un travail de recherche assez long que j'ai mené dans le cadre d'une thèse. Et je l'ai mené au sein du GISCOP 93, qui est le groupement d'intérêt scientifique des cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, qui est un dispositif de recherche-action qui s'est créé en Seine-Saint-Denis en 2002. Alors, il s'est pas créé en Seine-Saint-Denis complètement par hasard. Et quand je dis la date de 2002, en fait, il faudrait retirer les fils. Et j'ai essayé de les retirer dans ce travail en allant examiner les archives de plus près et en interviewant des gens qui avaient participé à construire ce dispositif. Et en fait, il faut remonter à peu près au milieu des années 80, à un moment où les compétences de santé qui étaient prises en charge par l'État sont confiées au département. Et donc ce département de la Seine-Saint-Denis, qui est tout jeune, il date de 1964, se donne comme objectif d'un petit peu objectiver l'état de santé de sa population et donc se dote de différents outils pour comprendre un petit peu quel est l'état de santé de sa population. Il comprend assez vite qu'il y a des taux très importants de mortalité infantile, qu'il y a des taux de tuberculose élevés. Et puis, les médecins de santé publique de département sont assez étonnés de voir qu'il y a l'un des taux de surmortalité par cancer. Donc la surmortalité, c'est avant 65 ans, qui est parmi l'un des plus élevés en France. Et avec d'autres acteurs, des médecins du travail, des chercheurs, ils vont faire l'hypothèse que finalement, l'histoire de ce département, qui est une histoire industrielle, longue et dense, peut être à l'origine aussi de ce taux de surmortalité par cancer. Et ils vont donc réfléchir pendant une bonne dizaine d'années dans le cadre de différentes instances pour mettre en place un dispositif qui permet d'explorer ça, d'explorer la part du travail dans l'épidémie de cancer en Seine-Saint-Denis. Alors quand je dis de longues discussions, c'est parce que c'est des discussions avec plusieurs acteurs, mais aussi avec plusieurs disciplines, et puis des controverses, hein, notamment avec l'épidémiologie, et puis des controverses avec l'idée de la science, hein, est-ce que c'est la recherche-action, la recherche pour l'action, la recherche dans l'action, ou est-ce que c'est la recherche académique pure? Et puis finalement, au fur et à mesure de ces 10 ans de débats, de controverses, en se situant aussi dans la filiation de mouvements nés en Italie dans les années 60-70, toute une série d'acteurs va finalement construire ce dispositif avec plusieurs partis pris, avec d'une part l'idée que de considérer le cancer comme une maladie évitable, de considérer que il y a une complémentarité des savoirs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte où il y a des savoirs profanes, ça c'est le grand mot des scientifiques, et des savoirs scientifiques de l'autre, mais que chacun à sa place a un savoir situé, comme diraient les féministes. Et du coup, de se dire, ben, on va construire avec tous ces savoirs complémentaires une connaissance sur les activités exposantes aux cancérogènes, sur les obstacles à la réparation de ces cancers, pour finalement favoriser la prévention de ces cancers.
Je me suis demandé si, dès le départ, il y avait l'idée que ces cancers professionnels étaient évidemment liés aux inégalités sociales, à la précarité. Et ça, j'imagine que le GISCOP s'en doutait, non ?
Alors pour les fondateurs du GISCOP, le lien était évident parce que le département de la Seine-Saint-Denis, j'ai dit que c'était un département qui avait une longue histoire ouvrière et donc c'est un département qui avait une population ouvrière importante et aussi une population migrante importante. Ça fait partie de son histoire, comme l'histoire de beaucoup de départements en France. Et l'histoire du GISCOP, elle naît aussi à la suite d'une étude qui s'est déjà menée sous la forme d'une recherche-action entre chercheurs et médecins de santé publique au département autour de la tuberculose. Et la tuberculose atteignait principalement les travailleurs immigrés, les travailleurs migrants. Et c'est autour de cette histoire de la tuberculose qui a beaucoup été travaillée par Annie Thébaumoni, qui est vraiment la fondatrice du GISCOP, qu'au fur et à mesure sont apparues des maladies professionnelles et puis des cancers professionnels. Ce qui a donné la puce à l'oreille quand même sur l'idée de fouiller cette question des cancers professionnels. Donc effectivement, au moment où se construit le GISCOP, la catégorie ouvrière est majoritaire dans le département de la Seine-Saint-Denis. C'est plus le cas aujourd'hui, mais parce que il y a eu la désindustrialisation, donc la population a évolué. Mais c'était le cas au moment de cette découverte de cette surmortalité par cancer. Quand on regarde les personnes qui sont exposées à des cancérogènes, puisque ça, on peut à peu près le savoir grâce à des études qu'on appelle SUMER, Surveillance médicale des risques au travail, qui sont des études menées par les médecins du travail sous l'égide du ministère du Travail, et qui interrogent, c'est les médecins du travail volontaires, et qui interrogent les salariés sur à quoi ils ont été exposés dans la semaine précédant la visite médicale. Donc on est vraiment dans les expositions contemporaines. Et les résultats de la dernière étude SUMER, l'étude de 2017, ont commencé à sortir vers 2019-2020, et montre que il y a 11% de salariés exposés aujourd'hui à des cancérogènes dans le cadre de leur activité de travail, mais que si on regarde de plus près, parmi ces 11% de salariés en moyenne, c'est 35% des ouvriers, et quand on regarde encore de plus près, ça peut être 90% des ouvriers de la réparation automobile. Donc on voit bien que effectivement la population la plus concernée par les cancérogènes, c'est la population ouvrière. Et puis c'est aussi, parmi cette population ouvrière, des statuts bien particuliers. Par exemple, les intérimaires font partie de ceux qui sont les plus exposés en cancérogène. Et c'est pas complètement surprenant, puisque les intérimaires travaillent aussi beaucoup dans la sous-traitance. Et on sait que depuis la légalisation de la sous-traitance dans le milieu des années 1970, il y a eu un développement de cette forme d'emploi, enfin de recours aux travailleurs, qui conduit à une externalisation, à une sous-traitance des risques, les entreprises externalisant leurs activités les plus exposantes finalement. Donc la maintenance, l'entretien, le nettoyage. Et dans le cadre de cette sous-traitance, on fait plus appel à des intérimaires aussi.
Et ouais, les entreprises externalisent les risques. Il y a un passage du livre d'Anne Marchand dans lequel elle explique comment cela permet aux grandes entreprises de ne pas être inquiétées, de ne pas payer. Et puis quand elles sont inquiétées, les entreprises se sont équipées de cabinets, d'avocats spécialisés. C'est devenu un business à part entière. Et dans le livre, il y a l'exemple d'Arkema, une filiale de Total. Je vous lis ce qu'Anne Marchand rapporte. Donc c'est un document qui a circulé chez Arkema, la filiale de Total, et dans lequel il est indiqué, nous recommandons de contester le caractère professionnel de la maladie, et ce, même dans les cas où il est absolument évident que le salarié a été réellement exposé au sein d'Arkema à un risque pouvant déclencher une maladie professionnelle, et même lorsque le salarié a effectué l'intégralité de sa carrière à Arkema. Voilà, des recommandations pures et simples de nier, toujours nier, et de mentir. Et alors, du coup, Arkema rajoute dans une note, il est important de préciser qu'il n'y a ici aucun état d'âme à avoir vis-à-vis du salarié. En effet, une telle décision n'a aucune incidence sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit. L'objectif est non seulement d'éviter l'augmentation du taux accident du travail, maladie professionnelle d'Arkema, mais aussi et surtout d'arriver à bloquer l'éventuelle imputation ultérieure des conséquences financières d'une reconnaissance de la faute inexcusable. Voilà, je l'ai lu un peu vite, mais vous avez compris le cynisme avec lequel les entreprises, enfin certaines entreprises en tout cas, gèrent cette problématique d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Message de la France d'en bas à la France d'en haut, ce n'est pas la rue qui gouverne. Mais c'est la rue qui essuie la morve de tes gamins, qui essaie de leur apprendre à lire, à compter et à écrire. C'est la rue qui se déplace 5 fois la nuit pour amener le bassin à ta vieille maman, qui lui change ses pansements. C'est la rue qui conduit le train qui t'emmène en vacances, le bus et le métro que tu ne dois pas prendre souvent. C'est la rue qui fait le planton des heures devant le restaurant où tu déjeunes de quelques bons plats préparés par la rue. C'est la rue qui achemine ton courrier, qui répare tes câbles, tes tuyaux qui font que tu peux prendre un bon pain chaud. La rue qui se lève tôt pour que tu aies du pain frais, un café et un journal. La rue qui ramasse les poubelles, nettoie tes bureaux, fabrique ta prochaine voiture de fonction, installe ton matelas et ton parasol, répond au téléphone, approvisionne les rayons.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Allez, de retour avec Anne Marchand, autrice du livre « Mourir de son travail aujourd'hui, enquête sur les cancers professionnels », un livre aux éditions de l'Atelier, un livre qui traite aussi de la mémoire du travail, de l'archivage, de l'histoire de la Seine-Saint-Denis et des travailleurs.
Pour faire ce livre, c'est le résultat d'une démarche d'accompagnement dans l'accès aux droits de près de 200 salariés ou de retraités atteints d'un cancer du poumon et leurs proches. Et ces personnes-là, je les ai accompagnées. Accompagner, ça veut dire répondre à leurs questions, mais ça veut dire aussi parfois répondre à leur invitation de venir chez eux, de les aider à se dépatouiller dans les papiers, comme ils me le proposaient, de les accompagner aux différents guichets administratifs. Et dans ce contexte-là, j'ai pu voir justement la difficulté à constituer des dossiers. Et cette difficulté-là, elle repose sur plusieurs choses. Déjà, la possibilité d'archiver ou non ces papiers. Alors il faut savoir que, puisque le cancer intervient 30 à 40 ans plus tard, il faut avoir gardé ses fiches de paye, il faut avoir gardé ses certificats de travail. Or, quand le cancer survient après la retraite, eh ben, on a des agents de la Caisse nationale de retraite qui peuvent vous dire, une fois que votre retraite est liquidée, vous n'avez plus besoin de ça. Débarrassez-vous de ces papiers. Et beaucoup de gens le font. Et ils ne savent pas, et moi je l'ai découvert aussi, hein, qu'il y a cette petite ligne, hein, il faut les garder à vie, ces papiers-là. C'est les rares papiers qu'il faut garder à vie avec l'état civil, je crois. Parce que justement, c'est ce qui va faire preuve en cas de maladie qu'on a été salarié sur telle et telle période, mais aussi qu'on a été salarié par telle entreprise. Et sans ça, l'instruction du dossier va avoir énormément de mal à pouvoir situer où vous avez pu éventuellement être exposé. Ensuite, effectivement, pour plusieurs personnes, d'autres catégories de la population, et notamment les migrants, il peut y avoir des parcours migratoires qui font que dans ce parcours-là, on va pas garder tous les papiers, parce qu'en fait, on sait pas exactement où on veut aller, ce qu'on veut faire, le projet de vie qu'on a, si on va retourner au pays ou pas. La retraite, c'est quelque chose qui est lointain, devant, quand on arrive jeune. Et j'ai plusieurs témoignages de travailleurs migrants qui m'expliquent que quand ils sont venus, ils pensaient venir 3 ans, bah peut-être 5 ans, peut-être 6 ans, peut-être 7 ans. Et en fait, c'est qu'une fois qu'ils se sont vraiment installés avec femmes puis enfants, qu'ils ont commencé à s'intéresser aux papiers, mais c'était pas forcément le moment où ils étaient le plus exposés. Donc les moments où ils avaient été exposés avant, comme travailleurs migrants célibataires, ils n'en avaient plus de traces. Donc effectivement, pour la question de la fouille, mais de la trace, de l'archive, elle est très importante, et c'est ce qui fait aussi obstacle à la connaissance des cancers professionnels, parce que si on n'est pas en mesure de reconstruire son parcours et de pouvoir trouver des traces, des preuves de ces expositions, ça devient assez compliqué.
Et puis même avec la fiche de paye, comment prouver que c'est bien ce produit, à cette époque, dans telle entreprise qui a provoqué ce cancer? Et comment prouver aussi, alors que l'usine a été détruite, que le bureau dans lequel on était peut-être secrétaire était au-dessus des ateliers et que les fumées passaient et qu'on a pu être intoxiqué? Sans témoignage, sans trace, tout cela n'existe pas. Et le travail d'enquête du GISCOP est essentiel. Le groupement acquiert des compétences particulières, des savoirs inédits que vous ne pouvez connaître qu'en passant des centaines d'heures à retracer des parcours. Dans le livre, à un moment par exemple, il y a ce nombre élevé de cancers du sein chez des opératrices de France Télécom, des femmes qui manipulaient des parafoudres radioactifs, mais personne n'était au courant. Enfin, personne ou presque. Il a fallu une enquête très poussée et tomber un jour sur un membre du CHSCT qui avait l'information. Et c'est cette complémentarité des savoirs qui est exemplaire ici. Chacun, à son niveau, possède des informations, une expertise, et il est important de la partager et d'en garder trace.
Au GISCOP, l'idée, c'est que le salarié, lui, c'est l'expert par excellence de ses conditions de travail. Il n'y a que lui qui peut dire comment il a travaillé. Et puis ensuite, le médecin, ça va être l'expert du diagnostic clinique de cette personne-là. Et puis, on a un collectif qu'on appelle des experts au sein du GISCOP, qui sont des médecins du travail, des hygiénistes industriels, des sociologues, il y avait des élus aussi, CHSCT avant, il y avait des infirmières du travail, et qui, eux, sont un peu experts des conditions de travail sur ce territoire-là et des expositions cancérogènes. Et puis, il y a les enquêteurs de l'équipe du GISCOP qui, eux, vont interroger les salariés sur leur parcours de travail. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas croire qu'on parle facilement du travail et qu'on décrit facilement son travail. C'est difficile de faire advenir une parole extrêmement précise sur le travail pour pouvoir ensuite justement expertiser ces conditions de travail. Et donc là, il y a toute une compétence pour réussir à un peu à tirer les vers du nez, hein, du salarié ou de l'ancien salarié, qui va pouvoir dire, ben moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'étais plombier, ben oui, mais plombier, ça voulait dire quoi, vous faisiez quoi, comment, à quel rythme, quand vous dites vous soudiez, mais vous soudiez avec quel alliage, selon quelle modalité, et puis finalement, est-ce que vous étiez assis, debout, est-ce qu'il y avait une fenêtre ouverte, est-ce que vous aviez un masque, ben, toute une série de questions qui vont chercher à reconstituer vraiment le travail réellement fait, dans toute sa finesse. Et après, effectivement, l'expertise, elle va dire, cette personne-là, quand elle dit qu'elle faisait ça, dans telles conditions, à cette époque-là, nous, on sait que là, c'était des cancérogènes. Quand elle dit qu'elle avait des gants en cuir, en fait, c'était de l'amiante. Quand elle dit qu'elle avait un produit noir qui lui brûlait les yeux, Et là, j'ai pas d'exemple à donner comme cancérogène. voilà, c'était ça. C'était telle substance. Et ensuite, ils peuvent aussi dire, là, quand elle dit ce produit, il brûlait la gorge et je pense qu'il était dangereux, ben non, il n'était pas dangereux. Donc là, on a une compétence particulière, une connaissance particulière, une expertise particulière. Et à la fin de ça, on va faire un résumé, en fait, au salarié ou au retraité qui s'est prêté, qui a consenti à participer à l'enquête, en lui disant, ben, vous avez bien voulu nous accorder un entretien sur votre parcours professionnel. On l'a soumis à un collectif d'experts. Et voilà, lui, il a identifié à certains moments où vous avez été exposé à des cancérogènes. Alors, ça, on a eu beaucoup de débats en interne, hein, parce que ça pose une question quand même difficile comme retour aux personnes. Alors, c'était l'idée, ben, on doit partager les connaissances qu'on a acquises, en fait. Il n'y a pas de raison qu'on les garde pour nous, il faut les donner. Mais comment accompagner ce retour d'informations ? Donc d'où la nécessité aussi d'accompagner, c'est-à-dire ne pas juste dire par un courrier « voilà, vous avez été exposé à ça en fait, vous avez cru que vous travailliez, que vous étiez content de votre travail », je caricature un peu, mais nous on est là pour vous dire « en fait là vous avez été exposé à l'amiante, là à la silice, là au benzène, là aux HAP, et finalement votre cancer, il est peut-être en lien avec ça
». Les HAP ?
Hydrocarbures polycycliques aromatiques. C'est une famille de molécules chimiques très large. On en trouve, il y en a à l'intérieur, par exemple, du benzène. Mais c'est aussi des produits de décomposition, de dégradation. Par exemple, dans les fumées de soudage, où on en trouve aussi quand les fluides de coupe, vous savez, c'est des liquides un peu transparents qu'on utilise avec dans la métallurgie, la sidérurgie, partout où il y a des machines pour éviter que ça chauffe. Et ben justement, quand ça chauffe, ce qui va sortir, ce qui va être un gaz, contient des HAP.
C'est dur ce sujet, car ici on parle de travailleurs qui ont un cancer, qui souvent n'ont jamais envisagé que cela puisse être dû à leur activité professionnelle. Alors comment faire face à la maladie en même temps qu'on réalise que c'est notre travail qui nous a rendus malades, que l'entreprise ou le patron en qui on avait plus ou moins confiance tout de même, nous a parfois, en connaissance de cause, laissé être intoxiqués.
Concrètement, je pense que les personnes atteintes d'un cancer sont vraiment totalement démunies. C'est-à-dire que déjà, elles doivent se battre contre la maladie. Déjà, apprendre qu'on a un cancer, c'est un véritable tsunami, hein, c'est un bouleversement. C'est des soins, un traitement lourd. C'est quelque chose qui permet pas... ça permet pas d'ouvrir un nouveau front à côté, hein, souvent. Et puis ensuite, il faut avoir été informé qu'on est exposé à des cancérogènes. Et je le disais tout à l'heure, pour beaucoup, c'est pas le cas. Et puis ensuite, seul, je pense qu'on peut on ne peut pas parvenir à grand chose. Donc il y a des associations aujourd'hui. Alors il y a l'Andeva et ses associations départementales, qui est l'association des victimes de l'amiante, qui est très centrée sur l'amiante. Cette association-là, c'est aussi l'un des outils du mouvement social des victimes de l'amiante, mais paradoxalement, l'amiante est devenu le cancérogène qui est l'arbre qui cache la forêt de tous les autres cancérogènes. Et sinon, il y a la FNAT qui prend aussi en charge les malades du travail ou les accidentés du travail. Donc il y a des associations, il y a parfois là où des syndicats existent dans des entreprises, il y a des syndicalistes qui ont compris que ces questions de réparation, c'était pas juste un guichet pour donner de l'argent, mais ça pouvait devenir être un levier de prévention, et que ça devait devenir une histoire collective. C'est-à-dire que quand l'un des salariés tombe malade d'un cancer, ça doit questionner toute l'organisation du travail de l'entreprise, et donc être pris en charge par le syndicat, pouvoir revenir sous forme d'une enquête, finalement, est-ce que dans notre activité de travail, il n'y a pas des poisons industriels, il n'y a pas des toxiques, il n'y a pas quelque chose qui continue d'empoisonner et de contaminer d'autres qui seront malades à leur retraite, qu'on verra plus. Donc ça devrait être des signaux d'alarme forts. Mais ça ne l'est pas souvent parce que, d'une part, ça atteint souvent des personnes retraitées, puis comme je le disais au début, et puis parce que les campagnes de prévention donnent une représentation du cancer qui est une maladie des comportements individuels. Donc tant qu'on ne parle pas de la présence de ces toxiques au travail et de la possibilité d'être exposé et de développer plus tard un cancer, c'est quelque chose qui est un impensé pour la majorité des gens et aussi pour les médecins. C'est-à-dire que les médecins, effectivement, ils sont invités à jouer un rôle crucial dans cette affaire-là, ne serait-ce que pour alerter les gens, ne serait-ce que pour faire un certificat médical en maladie professionnelle qui leur permettrait de déclarer. Mais les médecins généralistes, les médecins sont très peu formés à l'exception des médecins du travail. Les médecins en général sont très peu formés à ces questions d'étiologie professionnelle, donc de lien entre le travail et la santé. Ils sont davantage formés à la causalité médicale. Ils vont interroger sur le tabac, sur l'alcool. Ils interrogent peu sur les conditions de travail. Et puis pour avoir beaucoup de parler avec des médecins aussi, ils expliquent que leur formation est très lacunaire, que leur temps est infime, que même s'ils posent des questions sur le travail, et ben ils savent pas trop quoi faire avec ces informations ensuite, et que finalement quand ils sont amenés à faire des certificats en maladie professionnelle, ils se rendent compte que c'est pas anodin, c'est pas un certificat comme les autres, ils ne certifient pas n'importe quoi. Ils ont l'impression de se situer dans un espace de conflit entre l'employeur concerné et le salarié concerné, parce que c'est sur la base de ce certificat que un salarié peut être reconnu en maladie professionnelle ou refusé en maladie professionnelle, et c'est sur la base de ce certificat qu'un employeur va être amené à être sanctionné financièrement, puisqu'il va être amené à financer une maladie professionnelle. Donc il se rend compte assez vite. Et quand il ne s'en rend pas compte, il y a certains employeurs qui sont engagés dans des démarches de contentieux et qui font convoquer des médecins devant le Conseil de l'Ordre, ce qui crée un certain découragement, certaines inquiétudes chez des médecins dont le cœur de métier est le soin, faut pas l'oublier, et même pour certains qui veulent s'intéresser aux bénéfices sociaux de cette démarche de réparation, se sentent coincés aussi dans l'intensification du travail hospitalier. Les médecins généralistes, eux, ils sont, il y a quand même de plus en plus de déserts médicaux. Enfin, ils ont fort à faire. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Alors quand vous me dites qu'est-ce qu'on pourrait faire, moi j'en viens à me dire que la chose qui serait à faire, c'est de tous se mettre en débat sur est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces... il faut plus poser forcément la question de la réparation en premier, mais de se poser la question d'éviter ces contaminations, et donc de se reposer la question de est-ce qu'on a besoin de toutes ces substances chimiques toxiques. Alors moi, je ne vais pas dire il faut toutes les enlever, parce que je ne suis pas totalement naïve, et qu'il y en a qui font du bien. Les médicaments, hein, c'est de la chimie, etc. Mais on peut peut-être en revenir aux besoins essentiels. On peut peut-être en revenir à moins de production aussi de certaines choses. En tout cas, on peut essayer de ne plus diviser les choses, de recréer. Je sais pas trop comment dire, hein, mais d'arrêter de se dire on pointe sur la réparation, on pointe sur la prévention, on pointe sur la santé environnementale, on pointe sur la santé au travail, mais reconsidérer la santé dans sa globalité, avec une vision assez holistique en fait, et de se dire que la santé du vivant, il faut la prendre en considération, et à partir de là, et je pense que c'est d'actualité encore plus aiguë aujourd'hui, quoi. Et à partir de là, se dire toutes ces choses qui sont dans l'espace de travail, qui contaminent des travailleurs, mais qui contaminent aussi, le plastique, on en parle beaucoup, hein, quels que soient les efforts de communication sur le recyclage du plastique, on voit bien qu'il y a de sérieuses limites, on voit bien que même dans l'océan, hein, on a des poissons qui en meurent. Et donc, quoi faire avec tout ça? Il faut arrêter un petit peu, quoi.
En début d'émission, je vous ai dit qu'on reviendrait sur le choix de parler de travailleurs au masculin. Choix pas forcément malin de ma part, d'ailleurs, mais bon. Les femmes ont toujours été, elles aussi, victimes du travail, bien évidemment, victimes de maladies professionnelles. Et ce qui est sûr, c'est qu'elles le sont aujourd'hui de plus en plus, puisqu'elles travaillent aussi de plus en plus.
En fait, il y a, de façon assez classique, il y a encore plus invisible qu'un travailleur exposé au cancérogène. C'est une travailleuse exposée au cancérogène et il y a encore plus invisible qu'un travailleur victime d'un cancer professionnel. C'est une travailleuse victime d'un cancer professionnel pour plusieurs raisons. Parce que les tableaux maladies professionnelles ont été surtout définis à partir du travail dit masculin, que la représentation qu'on a du risque cancérogène est surtout sur les travaux dits masculins, industriels, etc. Et que on a très peu exploré, documenté, investigué des travaux, par exemple le nettoyage, c'est-à-dire qu'on n'a pas analysé les cancérogènes présents dans les bidons de produits ménagers de la technicienne de surface, comme on dit aujourd'hui, avec son chariot, et surtout les effets cocktails de ces produits-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir des produits qui, pris isolément, ne sont pas toxiques, mais qui mélangés peuvent devenir cancérogènes. Donc on a un déficit d'études et qui est d'autant plus important sur les travaux dits féminins, je mets des gros guillemets, hein, mais si l'on considère qu'il y a une division sexuelle du travail encore et qu'il y a des secteurs sexués, il y a une ségrégation horizontale du travail, il y a un déficit d'études manifeste depuis l'amont sur les effets des produits sur la santé des femmes. Jusque l'aval, qui est de faire le lien entre leur maladie et leur travail. Et un des exemples les plus probants et les plus récents, c'est ces cancers du sein, qui commencent à être reconnus d'origine professionnelle et qui ont jusqu'à présent été présentés comme une forme de fatalité pour les femmes. Il y a un certain pourcentage très important de femmes qui auront un cancer du sein en France, c'est des cancers féminins. Et là, il y a une petite subversion qui se produit, c'est que les premières des infirmières ont pu voir leur cancer reconnu en maladie professionnelle en lien avec le travail de nuit, qui est un cancérogène reconnu, en lien avec l'administration de chimiothérapie, paradoxalement, parce que la chimiothérapie soigne, mais elle peut aussi rendre malade, des chimiothérapies administrées sans être protégées. Et puis, on a aussi des femmes là d'une usine qui s'appelle, enfin d'un laboratoire qui s'appelle Tetra Medical à Annonay, en Ardèche, qui ont fabriqué des compresses stériles pendant des années en contact avec de l'oxyde d'éthylène. Et là, on voit apparaître un nombre important d'entre elles atteintes de cancer, leurs enfants atteints d'anomalies. Donc il y a un nouveau scandale sanitaire qui émerge. Et parmi elles, des femmes qui commencent à voir reconnaître leur cancer du sein en lien avec leur travail. Et donc on voit bien là comment il y a une déconstruction majeure, hein, que finalement le cancer du sein, mais au même titre que le cancer de la prostate des hommes, au même titre que le cancer des ovaires, peut être lui aussi d'origine professionnelle.
Le plus fou de toute cette histoire de cancer professionnel, c'est qu'évidemment, c'est pas le fric qui motive les malades, à la différence des patrons qui les ont rendus malades pour du fric. Et si le Giscop n'enquête pas, si les malades ne portent pas plainte, si des médecins ne sonnent pas l'alerte, il ne se passe rien. L'État ne s'empare pas du sujet, n'enquête pas, ne produit pas de données sur ce fléau des maladies professionnelles. C'est ça le truc le plus fou. Faut que je m'en remette. Bon, en attendant, écoutons voir si Anne Marchand a un truc à nous dire sur ses poils, ça va nous changer les idées.
Du coup, ça va être diffusé, je vais pas tout dire. Hein. Alors, les poils... Ah, c'est dur. Bon, les poils, l'émission elle s'appelle Les poils sous les bras. Moi, je me les coupe depuis un moment. Par contre, j'ai du poil aux pattes. Je me les coupais avant, je me les coupe plus. Et puis, je trouve que en vieillissant, c'est étrange parce qu'il y a de moins en moins de poils en bas sur les pattes et il y en a de plus en plus en haut sur le menton et sur la moustache. Et voilà, je sais pas comment faire avec ces poils, j'y touche plus. Et puis, les poils, c'est être à poil. Être à poil, ça fait longtemps que j'ai pas pu être à poil dans la piscine ou dans la mer.
On va se quitter, mais gardez en tête, 11% des salariés sont exposés régulièrement à des cancérogènes, un quart des apprentis. Ces salariés sont exposés dans le cadre de leur activité, ce ne sont pas des accidents, ce sont des circonstances habituelles. Certains procédés du travail tuent petit à petit, par contamination lente ou empoisonnement progressif. Certaines salariés vont développer des cancers professionnels, qu'ils travaillent dans le bois ou qu'ils soient au contact avec de la silicose, des cosmétiques, ceux qui travaillent de nuit. La liste des métiers qui peuvent intoxiquer et donner des cancers est longue. Et le sujet est encore bien tabou. Et les salariés manquent évidemment de connaissances sur les risques qu'ils prennent. Alors je vous renvoie, pour tout plein d'autres informations dont on n'a pas le temps de parler, mais qui sont dans le livre, à ce livre justement, « Mourir de son travail aujourd'hui » de Anne Marchand. Et même si vous ne le lisez pas, dites aux travailleurs et aux travailleuses de garder leurs fiches de paye, d'exiger des fiches de poste précises avec un maximum d'informations sur les tâches et les produits, de noter, de garder des traces. Dites-leur de ne pas faire confiance aveuglément, de se renseigner, de lutter ensemble contre ce système qui ne rend pas justice, puisque dans le cas de maladies professionnelles, c'est un système de responsabilité sans faute. Une honte qui explique que rien ne change, ou presque. Bon allez, promis, j'essaye de trouver un sujet plus gai pour la prochaine émission, mais c'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette émission et les autres aussi, du poil sous les bras. C'est du partage de connaissances pour qu'on soit tous et toutes un petit peu mieux équipés pour faire face à la vie.